En janvier 2021, la RTS, la principale chaîne d'information du service public en Suisse, a affirmé que la mortalité provoquée par le Covid en 2020 était la pire connue par le pays depuis 100 ans. En réalité, cette mortalité était la pire depuis 5 ans. Nous revenons sur ce grand moment de très mauvais journalisme et d'extrême mauvaise foi. Pierre est dans la place. Salut Pierre.
Salut Charlie.
Bonjour les auditeurs et bonjour les téléspectateurs qui nous regardent pour cette première du Cirque de l'Info, une émission qui va se décliner en plusieurs épisodes et qui va vous emmener dans un voyage autour de la désinformation, la fameuse désinformation dont tout le monde parle, mais souvent en allant dans un sens, celui de désinformer. Alors, on est là depuis quelques temps déjà, hein, peut-être dans les coulisses, peut-être des fois sur la scène, pour depuis 2 ans, au moins 2-3 ans, vous amener des informations vérifiées. Et ce qui nous a surpris, Pierre et moi, c'est que il y avait une redondance d'informations fausses qui étaient véhiculées par les médias qui étaient censés nous libérer de la fausse information. Et si on n'a pas l'œil d'aigle comme Pierre, c'est des choses qui passent inaperçues et qui disparaissent vite dans le flot de l'information. Mais on est là pour justement mettre le focus sur certaines de ces exactions désinformationnelles. Et aujourd'hui, on a préparé un épisode, on va vous en parler tout de suite. Mais ce qui nous a surpris justement, c'est cette absence de fact-checking. Le fact-checking qui est né d'abord de la base pour justement vérifier ce que les politiciens disaient, hein, les politiciens populistes que personne n'aime. Et les fact-checkers étaient là pour justement être les justiciers de l'information et remettre les pendules à l'heure. Or, pendant la crise Covid, il s'est passé un phénomène détourné, c'est que ce fact-checking a été instrumentalisé par des liens, par des intérêts dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent. On se souvient par exemple de l'affaire de Fast and Furious en France, hein, qui avait un peu défrayé la chronique parce qu'il y a des gens qui avaient été cherchés derrière qui étaient ces gens et pour qui ils travaillaient. Et puis donc, je ne sais pas si Pierre, toi, tu as quelque chose à dire par rapport à tous ces fact-checkers en général.
Ce qui me gêne un peu avec les fact-checkers, c'est que les fake news, tout le monde en a commis, en fait. Il y a eu des fake news qui venaient des réseaux sociaux, il y a eu des fake news qui venaient des médias dits alternatifs. Et il y a aussi pas mal de fake news qui sont venues des médias grand public. Et les seules qui faisaient l'objet de fact-check, en tout cas agressif et largement diffusé, c'était celles qui provenaient des médias sociaux ou des médias alternatifs, et très rarement des médias grand public. Et c'est ce qui me gêne profondément. C'est comme si on n'avait pas droit à un regard critique sur ces médias-là.
Oui, exactement. En introduction, comme c'est le premier épisode, on voulait passer un extrait d'Étienne Chouard qui parlait justement du journalisme et puis du peu de protection dont il jouit aujourd'hui et puis qui peut expliquer aussi ces biais qui sont de plus en plus liés peut-être à des intérêts financiers aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie des annonces, des publicités qui financent et nourrissent les médias aujourd'hui, malheureusement, viennent d'industries qui sont justement critiquables et qui souvent défraient la chronique pour des scandales à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de francs ou d'euros d'amende. Donc voilà, c'est un extrait qu'on va vous passer maintenant.
Les journalistes sont achetables. Au lieu d'être protégés dans la Constitution, et ce serait interdit, voilà, on interdirait à toute personne riche, toute personne physique ou morale, on interdirait d'acheter un média. Voilà. Les médias appartiennent à... On écrirait dans la Constitution, les médias appartiennent à leurs journalistes. Donc on aurait la diversité, puisque les journalistes, il va y en avoir de gauche, de droite, il va y en avoir d'autres. Quand vous permettez aux milliardaires d'acheter les journalistes et de virer les journalistes dont ils ne sont pas contents, qui ne respectent pas la ligne, ben, vous donnez un outil fondamental de formation de l'opinion aux plus riches. Mais il ne faut pas confondre l'intérêt général avec l'intérêt des plus riches. Hein. Et donc il n'y a plus de contre-pouvoir. Normalement, les journalistes, pendant la Révolution, on les appelait les sentinelles du peuple. C'est les chiens de garde de la démocratie qui vont protéger les citoyens contre les intrigues, les complots. Les complots des riches contre les pauvres, évidemment, les complots, bien sûr. L'histoire des hommes, c'est l'histoire des complots des riches contre les pauvres. Et les journalistes sont ceux dont on devrait, dans la Constitution, à qui on devrait donner l'indépendance, la protection contre les pressions, et les contrôles nécessaires pour exercer leur mission de contrôle des pouvoirs. Au lieu de ça, on laisse les riches acheter les médias. Donc les médias deviennent, c'est incroyable, des pourchasseurs de complotistes, des pourchasseurs de ceux qui font leur métier. C'est dingue, c'est dingue, c'est complètement mis à l'envers.
Donc voilà, nous sommes les pourchasseurs, nous sommes pourchassés par ceux qui nous reprochent de faire leur métier. Alors, je ne sais pas s'il y a deux, trois éléments qui t'ont interpellé, mais quand il disait justement à un moment que certains journalistes se faisaient virer, ben, c'est ce qu'on a vu pendant la crise Covid. Hein. On se rappelle du rédacteur en chef du Bild, qui est un jeune journaliste qui était prometteur hein, dans la scène du journalisme allemand, qui après ses excuses en fait auprès des enfants pour les avoir culpabilisés par rapport à la mort potentielle de leurs grands-parents, quelques temps après s'est vu remercier sans véritable raison. Et puis on a plusieurs exemples aussi de journalistes indépendants qui ont eu de la peine à faire passer des articles qui allaient dans le sens inverse de la pensée un peu unique qu'on a vécue pendant le Covid. Et toi Pierre, peut-être qu'aussi t'as ce discours-là de Chouard t'a interpellé.
Ben, c'est finalement le fait qu'il y ait des pourchasseurs de complotistes, à la limite, pourquoi pas. S'il y avait aussi des pourchasseurs de fake news venant des médias, c'est toujours une question d'égalité de traitement, en fait, que toutes les informations soient remises en question avec la même férocité, et puis que les conséquences des erreurs puissent être les mêmes, qu'on soit dans un média alternatif, qu'on soit dans un média établi, et quelle que soit la nature de l'erreur, si elle favorise l'industrie pharmaceutique, par exemple, ou si elle la défavorise, dans les deux cas, on devrait la traiter de la même manière. Ce qui me choque vraiment, c'est la différence de traitement.
Voilà. Et là, tu nous as trouvé une perle quand même qui remonte à 2020, qui va se passer, on va dérouler ça en trois actes, hein, avec trois instantanés sur des moments, des reflets médiatiques autour de cette thématique. Et donc, c'est le traitement de la mortalité Covid, notamment par la RTS. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous exposer là-dessus?
Alors, ça se déroule en 2021, mais en effet, ça porte sur 2020. Donc, il y a trois moments, trois articles et interventions dans les émissions de la RTS en janvier 2021, en avril et en septembre. À chaque fois, sur le sujet de la mortalité Covid. Et c'est vrai que c'est un des premiers sujets pour lequel on s'est tourné vers les médias. Comprendre quelle était la gravité réelle de la mortalité Covid. Finalement, à quel point est-ce qu'on devait avoir peur de ce virus? Ça dépendait de sa capacité à nous tuer. Et les médias se sont chargés de faire ces comptes rendus, de compter les morts, et au-delà du décompte des morts, aussi de nous expliquer l'importance exacte qu'avait cette mortalité. Et c'est un peu ce qu'a fait la RTS dans les articles dont on va parler aujourd'hui. Ça rentre dans cette communication souvent alarmante des médias grand public par rapport à la mortalité Covid. Alors, c'était pas les seuls en cause, parce que les autorités sanitaires, l'OMS aussi, ont participé à une communication alarmiste avec cette histoire de classification des décès Covid, dont un grand nombre était en fait avec Covid et pas du Covid. Ça, on en a beaucoup reparlé aussi.
Avec le virus.
Et les médias ont aussi... exactement. Avec le virus, positif au virus, mais mort d'un accident de voiture, par exemple, et compté voilà. Comme mort Covid. Ça, c'est évidemment que ça a contribué à gonfler les statistiques, mais il y a aussi la façon dont les médias ont apporté un spin, une interprétation sur la gravité, sur ce que signifiaient les chiffres. Et donc, ces trois sujets illustrent bien, en même temps, cet alarmisme, j'ai envie de dire, dans le cas de la RTS, presque forcené, pour vraiment nous donner l'impression que la gravité est extrême, quand il s'agit de la mortalité Covid, et aussi, et c'est pour ça que ce sujet, je le trouvais très intéressant, ça illustre la grande réticence de la RTS à admettre ses erreurs quand elle en commet et à se remettre en question.
Voilà. Donc là, premier acte, on retrouve un article qui date du 12 janvier 2021 et qui titre « La mortalité a atteint en 2020 des niveaux inédit depuis 100 ans. » Et là, donc, on a une référence à la grippe espagnole. Donc, la grippe espagnole qui, dans la psychologie générale, est considérée comme un drame humain sans précédent. Effectivement, moi, j'ai deux de mes arrière-grands-parents qui sont morts de la grippe espagnole. Et donc là, ça fait appel quand même à des choses dans les tripes des gens qui sont assez effrayantes, hein. Donc, de comparer le Covid à la grippe espagnole, ça donne au Covid une notoriété funeste, on ne peut plus dramatique. Voilà. Donc là, c'est basé sur des chiffres de la mortalité de l'OFS pour l'année 2020, donc hein, c'est ça, qui montrait une mortalité supérieure à ce qui était attendu. La RTS donc affirme avoir réuni sa cellule data, donc c'est peut-être un groupe qui est chargé de lire les données, comme on le verra, peut-être c'était au début, ils étaient peut-être encore en stage à la RTS quand ça s'est passé. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'ils ont présenté au public qui comprend rien aux chiffres cette surmortalité. Et puis peut-être les phrases choc avec lesquelles, enfin, qu'ils ont utilisées pour biaiser un peu la perception de la gravité de la crise. Alors, je te laisse maintenant faire rentrer dans les détails de ce fact-checking.
Alors, pour vous donner peut-être une idée de comment c'était communiqué, j'aimerais vous passer un petit extrait qui est un montage de deux interventions différentes dans le forum et dans le journal de la RTS. Vous allez voir, c'est très parlant.
C'est la troisième fois qu'on enregistre un nombre de décès dans la population supérieur à 70 000 personnes depuis 1870 avec la variole et en 1918 lors de la grippe espagnole. La courbe démographique ici l'illustre en trois pics. C'est du jamais vu depuis 1918.
Depuis donc la grippe espagnole.
Voilà, c'est du jamais vu depuis 1918, des chiffres inédits depuis 100 ans. Une mortalité inédite depuis 100 ans et la comparaison avec la grippe espagnole. Alors, est-ce que, faisant le fact-check, est-ce que la mortalité a vraiment atteint en 2020 en Suisse des niveaux inédits depuis 100 ans? Est-ce que c'est vraiment comparable à la grippe espagnole? Alors, pas du tout. En fait, la dernière fois qu'on a dépassé la mortalité de 2020, c'était en 2015. En 2015, la mortalité standardisée était plus élevée qu'en 2020.
Alors,
Donc, pas
standardisé,
100 ans, mais 5 ans,
tu dis déjà un
selon
mot
les deux groupes.
que tout le monde ne va peut-être pas comprendre. Standardisé, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, si on veut comparer la mortalité entre deux années, qui seront en l'occurrence espacées beaucoup entre elles, on doit utiliser ce qu'on appelle la mortalité standardisée. C'est un concept assez simple, c'est qu'on prend en considération la croissance de la population avec le temps et le vieillissement de la population. C'est simplement ça. Et quand on arrive à une année 2015 qui est supérieure à 2020 en termes de mortalité, c'est quand on prend en compte cette augmentation et ce vieillissement de la population, ce qui est la seule façon sensée vraiment de comparer la mortalité de deux années différentes. Donc, on ne peut pas se contenter de compter le nombre de morts parce qu'en 1918, simplement, la Suisse comptait, bon, grosso modo, 3 millions d'habitants, un peu plus. Et en 2020, on va vers les 9 millions. Donc, on est à 2 à 3 fois plus d'habitants. 1 000 morts en 1918 n'est pas du tout équivalent à 1 000 morts en 2020. Et de la même manière, en 1918, on avait une population beaucoup plus jeune que celle qu'on a en 2020, ce qui impacte aussi le nombre de morts auxquels on peut s'attendre chaque année. Donc, comparer simplement ce qu'on appelle les chiffres bruts, donc le nombre de morts déclarés de 1918 ou de 1870, comme ils le font là, avec ceux de 2020, ça n'a aucun sens. Ce n'est simplement pas une comparaison qu'un statisticien sérieux ferait. Et c'est pourtant ce que la RTS a fait. Donc, on le voit, et peut-être qu'on pourra la remettre à l'écran, dans la courbe qui accompagne l'extrait qu'on vous a passé à l'instant. Il parle de trois pics, 1870, population suisse à peu près 2 millions d'habitants, 1918, comme je l'ai dit, 3-4 millions, 2020, plus de 8, sans inclure la pyramide des âges. Donc, il présente les chiffres absolus. La cellule data de la RTS ne tient pas compte du vieillissement, ne tient pas compte de l'augmentation de la population. Et c'est à cette condition-là qu'ils peuvent conclure que ce sont des chiffres inédits depuis 100 ans et qu'on n'a jamais vu ça depuis la grippe espagnole. Il faut relever quand même, pour la comparaison avec la grippe espagnole, qu'elle est d'autant plus absurde que la grippe espagnole touchait en très très grande partie, en priorité, les personnes jeunes. Donc en termes de nombre d'années de vie à l'échelle de la population entière perdue, c'est d'autant plus incomparable la grippe espagnole avec le Covid qui lui touchait plutôt les personnes âgées.
Voilà, donc ça c'était un deuxième acte, donc le 15 avril. L'RTS a republié un article qui s'intitule « La surmortalité ne serait pas aussi grande qu'annoncée ». Là, je pense, on peut le mettre à l'écran. Et là, dans cet article, il donne la parole à une chercheuse à Unisanté, donc quand même un organe assez réputé, Isabella Locatelli. Et elle a été certainement aussi choquée que nous par ce que la RTS avait publié par rapport à ce drame voilà, qui se déroulait et qui était censé être d'une intensité aussi forte que la grippe espagnole. Et donc, elle a fait une analyse statistique en standardisant les données. Donc, comme on vient de l'expliquer Pierre, ils sont arrivés à la même conclusion, c'est qu'il faut remonter non pas en 1918, mais à 2015 pour retrouver une mortalité aussi importante. Voilà. La RTS rapporte donc cette publication sur le site et à la radio. Mais là, on va assister à une véritable masterclass de mauvaise foi. Donc, on va passer ces extraits.
C'est une guerre des chiffres à laquelle on a l'impression d'assister autour de la surmortalité liée au Covid l'an dernier en Suisse. Unisanté publie aujourd'hui une étude moins alarmiste que les chiffres présentés en début d'année par l'Office fédéral de la statistique.
Quand on veut comparer la mortalité en deux années, on ne peut pas se baser sur le nombre absolu de décès parce qu'au fil du temps, la population change et notamment elle augmente et surtout elle vieillit. Ceci a un impact très important sur le nombre de décès.
Alors, la voix de la raison de Madame Locatelli, hein, qui résume l'importance d'une approche standardisée. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que oui, la RTS donne la parole à quelqu'un qui pointe du doigt l'erreur de la méthode qu'ils ont utilisée dans leur article en début d'année, mais ils le font d'une manière qui leur évite de reconnaître le moindre tort ou la moindre responsabilité. Et c'est assez fascinant, en fait. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. Il y a eu 7 interviews radio et aussi un article sur RTS Info, et je vais m'appuyer sur les deux. Que va faire la RTS? Elle va d'abord essayer, selon moi, subtilement, de mettre son erreur d'interprétation sur le dos de l'Office fédéral des statistiques. Elle parle d'une véritable guerre des chiffres, sous-entendu entre l'Office fédéral de la statistique et Unisanté, qui publie cette étude quelques mois plus tard. Alors qu'en fait, en tout cas, autant que j'ai pu le chercher, l'Office fédéral de la statistique n'a jamais comparé les morts de 2020 à la grippe espagnole. C'est la RTS qui l'a fait. Hein. En tout cas, je trouve aucun autre document que simplement des bilans chiffrés de la part de l'Office fédéral de la statistique. Donc il y a une subtile tentative de se dédouaner et de mettre ça sur le dos de l'OFS. Dans un deuxième temps, et ça c'est ce que j'ai trouvé le plus savoureux, dans l'article, la RTS va dire que ce sont certains médias qui avaient mal interprété ces chiffres. Donc simplement, si je cite l'article, certains médias avaient conclu qu'il fallait remonter à la grippe espagnole de 1918 pour trouver un nombre de décès aussi élevé sur un an. Certains médias avaient en effet conclu que la mortalité avait atteint en 2020 des niveaux inédits depuis 100 ans. Alors non, RTS, ce n'était pas certains médias, c'était toi. Hein. Et c'est assez extraordinaire, on sent en plus avec la répétition des deux phrases qui sont formulées exactement de la même manière, qu'il y a vraiment une intention de ne surtout pas reconnaître que eux avaient commis cette erreur. Et les explications de Madame Locatelli sont très claires. Et elle s'abstient absolument de toute polémique. Par contre, et ça c'est un autre extrait que j'aimerais vous faire écouter, selon moi, la journaliste de la RTS, dans son interview de Madame Locatelli, va subtilement laisser entendre que Madame Locatelli cherche peut-être à relativiser un petit peu l'importance de cette pandémie et sa gravité à la dédramatiser. Je vous laisse écouter ça et vous me direz dans les commentaires si vous entendez le même sous-entendu que moi.
Est-ce que vous ne cherchez pas quelque part à dédramatiser finalement la situation?
Alors, nous sommes chercheurs, statisticiens avec un intérêt pour la démographie et l'épidémiologie. Nous ne pensons pas que notre rôle est de tirer des conclusions, mais nous voulons apporter des chiffres précis et corrects, on va dire, concernant l'effet que la pandémie a eu sur la mortalité. Donc...
Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi, donc au moment où la journaliste pose cette question, il y a un léger malaise qu'on entend dans le ton et dans la formulation de Madame Locatelli, parce que si on se remémore de l'ambiance de l'époque, début printemps 2021, on était très mal vu si on relativisait la gravité de la pandémie. C'était vraiment, socialement, politiquement, c'était très mal considéré. Et selon moi, de la part de la journaliste, il y a une espèce de tentative de, je sais pas, culpabiliser, rendre un peu honteuse Madame Locatelli, puisqu'elle ose dédramatiser un petit peu ce qui devrait forcément être dramatique. Et là, encore une fois, c'est une façon de ne pas assumer le fait que la RTS, ben, elle a fait une erreur. C'est pas Madame Locatelli qui dédramatise, c'est la RTS qui dramatise, en fait. Donc, si je résume, la RTS est prise en faute. D'abord, elle commence par mettre la faute sur l'Office fédéral de la statistique. Ensuite, plutôt que de parler d'elle-même, elle parle de certains médias qui se sont trompés, et finalement, elle insinue subtilement que de critiquer l'alarmisme de la RTS, ça revient à relativiser l'importance de la pandémie elle-même. Donc, je trouve que c'est absolument consternant, mais on pourrait se dire, au moins, ils ont été pris la main dans le sac de faire une très mauvaise interprétation, au moins, ils auront appris de cette leçon-là, et ils ne recommenceront pas. Eh bien, attendons le troisième article dont Charlie va nous parler, qui lui date de nouveau quelques mois plus tard, en septembre.
Alors effectivement, donc en septembre 2021, il y a eu un article de la RTS qui titre « Le Covid plus meurtrier que la grippe espagnole aux États-Unis ». Donc voilà, ils ont recommencé, c'est des récidivistes. Je crois que c'est déjà la réaction qu'ils ont eue est très révélatrice d'un état d'esprit qui régnait au sein des rédactions de la RTS et d'autres rédactions aussi. Et puis donc là, ils ont précisé que c'était en valeur absolue. Mais bon, il faut déjà que les gens sachent ce que « en valeur absolue » veut dire, parce que sinon, on ne va pas tout de suite capter cette information qui va nous paraître un peu secondaire par rapport au fait que c'est meurtrier. Donc le mot « meurtrier » est déjà très fort. Et « grippe espagnole », donc « valeur absolue », il passe quasiment inaperçu. Hein, donc. Et là, peut-être que tu peux nous détailler un peu l'article et puis nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les détails et puis comment ils sont arrivés à cette conclusion.
Oui, ben c'est toujours le même problème, hein, c'est très simple. Ils ont pris les nombres absolus en effet. Donc, les États-Unis ont connu une croissance démographique à peu près similaire à celle de la Suisse, même probablement plus rapide. Donc la population américaine depuis 1918, elle a triplé, elle a beaucoup vieilli, et c'est complètement absurde de comparer la mortalité de 1918 à celle de 2020 sans procéder à cette standardisation dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment, si je veux pas être lourd dans mon résumé, mais c'est parce que ça me consterne. Donc je re-résume en trois points ces trois articles. Ils font une comparaison alarmiste totalement inadéquate sur le plan statistique, donc archi-trompeuse, en janvier. En avril, quand on le leur signale tout à fait gentiment par le biais d'un joli rapport, ils font de leur mieux pour n'absolument pas reconnaître leur erreur. Et en septembre, ben, ils recommencent. Voilà. Et après, on s'étonne que la population, comme on le déplore souvent dans les médias, manque de confiance dans les médias grand public. Ben, il faut la mériter, cette confiance-là.
Voilà, exactement.
Alors, on pourrait me dire, et c'est quelque chose quand j'ai des conversations de bistrot où je critique le traitement du Covid par les médias, qu'on me dit de temps en temps, oui, bon, on est toujours plus malin après. C'est facile après coup de dire, sur le moment, on fait de son mieux avec les informations qu'on a. Mais là, je pense vraiment pas qu'on puisse dire ça. C'est l'évidence, hein, qu'il faut tenir compte de la taille de la population, de la pyramide des âges. Je pense qu'en 5 minutes de googling sur la mortalité et comment est-ce qu'on la compare, comment est-ce qu'on la mesure, on tombe là-dessus. Donc évidemment que les journalistes de la RTS avaient toutes les compétences nécessaires pour faire ce travail-là. Une autre chose que j'ai entendue de temps en temps, c'est, oui, alors d'accord, les médias ont eu tendance à exagérer un peu la gravité de la pandémie, mais le pire, ça aurait été de minimiser. C'est un petit peu aussi ce qu'on entend dans la conversation avec Madame Locatelli. Et je pense pas que ce soit vrai, en fait. Il y a un danger quand on minimise la gravité d'une crise sanitaire, mais il y a un danger quand on exagère sa gravité, et notamment parce qu'on va prendre des décisions sur la base de mauvaises informations. Et on se rend très bien compte aujourd'hui, parce que les bilans des mesures anti-Covid sont très mauvais, hein, les fermetures d'écoles, les confinements, les obligations vaccinales pour les personnes jeunes qui n'en avaient pas besoin pour être protégées. Maintenant qu'on commence à faire le bilan, il n'est pas bon du tout, et c'est les décisions qui ont été prises par les gouvernements sous l'influence d'une couverture médiatique hyper alarmiste. Et c'est la même chose, je dirais, pour les décisions individuelles, parce qu'en Suisse, aujourd'hui, et depuis longtemps déjà, un homme de moins, sauf erreur, de 30 ans, on ne lui recommande pas le vaccin Moderna en raison du risque de myocardite. Mais un homme de 30 ans, cette recommandation est venue quand même très tardivement. En écoutant la RTS, il a tout à fait pu penser que cette maladie était plus dangereuse pour lui que la réalité, et prendre une décision de vaccination qui était en fait pas sage par rapport à son profil bénéfice-risque, sur la base de ce qu'il avait lu dans les médias. Donc toute cette atmosphère alarmiste a contribué à empêcher les autorités politiques et sanitaires et les individus à prendre des décisions rationnelles simplement. Donc je pense qu'il y a une responsabilité des médias là-dedans.
Il y a une responsabilité clairement aussi dans le fait que ce n'est pas seulement la formation de la perception de la dangerosité du virus qui a été affectée, mais aussi la capacité des médecins de soigner les gens. Et là, on a le travail de Pierre Chaillot, le statisticien, qui est assez révélateur dans ce domaine-là. C'est que lui a trouvé que en début de la crise, enfin la psychose était tellement grande qu'on disait aux gens restez chez vous. On empêchait les médecins de ville de soigner les gens d'ailleurs. On disait aux gens restez chez vous jusqu'à ce que vous en puissiez plus. Et puis là, vous pourriez venir à l'hôpital. Et ce qu'il a vu dans les statistiques, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont morts du Covid le jour même de leur admission à l'hôpital ou le lendemain. Ce qui démontre qu'en fait, on a laissé les gens sans soins par ces décisions politiques, par ces psychoses qu'on a générées, par ces articles, les articles de ce type, hein, il y en a eu profusion, ce qui a fait que ça a aussi eu des conséquences dramatiques pour beaucoup de personnes. Donc on voulait sauver des gens, mais en fait, les statistiques montrent qu'en fait, on en a peut-être tué. Donc voilà, et c'est peut-être là une grande valeur de tout ce travail de post-analyse qui est à faire encore par rapport au Covid et puis à des médias comme les nôtres aussi de les diffuser. Merci Pierre. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir parler du prochain sujet? Qu'est-ce qui te titille? Je sais que tu as plusieurs dossiers
Alors, c'est une.
sur les mains.
Oui,
Mmh.
j'ai plusieurs sujets à l'esprit et je pense que je vais faire quelques propositions et dans les commentaires ou d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux, vous pouvez prendre contact avec Charlie, avec moi et puis nous dire ce que vous en pensez ou si vous avez, vous, un sujet à proposer. Un sujet, ce serait le traitement des masques par ID News, qui est un peu un média dont je pense qu'il faut absolument parler dans cette série parce que c'est un média fascinant. Je pense que la façon dont la dangerosité de l'hydroxychloroquine, quoi qu'on pense de son efficacité, la façon dont la dangerosité a été traitée par les médias est intéressante aussi. Et la même chose pour l'ivermectine. Il y a vraiment eu des espèces de bouffées délirantes autour des dangers supposés de ces molécules-là. Il y a certainement d'autres choses qui me viendraient à l'esprit, mais si vous rappelez vous être beaucoup énervé à la lecture d'un journal un jour sur un sujet particulier, ben mettez-nous aussi en commentaire ce qui vous a énervé et on pourra peut-être se pencher dessus.
Voilà. Un grand
Charlie, des
merci.
idées?
Oh, waouh, des idées, on en a. Hein. Effectivement, on a stocké beaucoup d'informations et puis d'articles, par exemple, qui ont changé de titre dans l'intervalle, hein, après quelques mois, en fonction des nouvelles informations, donc des gens qui ont affirmé des choses qui étaient complètement fausses, et puis après ils se sont rétractés, mais discrètement, hein, toujours dans la discrétion. Donc ça fait les gros titres quand c'est quand les exagérations sortent, mais quand il y a des rectifications, ça se fait toujours un petit peu en catimini et discrètement. Mais ça se fait, et puis on en a trouvé aussi quelques-unes, donc je me réjouis de continuer cette série avec toi, Pierre, et puis merci pour tout ce travail de fourmi que tu fais, et puis ces interviews que tu nous donnes. Donc resilience.tv et radiolib.ch.
Merci Charlie, c'est un grand plaisir d'avoir cet échange avec toi. Et à l'intention des médias, parce qu'il faut toujours, il faut jamais oublier l'amour quand on les critique. Je suis un immense consommateur de médias, y compris les médias grand public. Contrairement à ce qu'on entend, j'aime les journalistes et je respecte leur travail. Je pense que ce dont on aurait besoin de la part des journalistes grand public, c'est simplement justement d'une capacité à revenir sur la façon dont ils ont traité cette information et à revenir de façon critique dessus. C'est pas la perfection qui est demandée, c'est plutôt l'humilité et le travail d'examen critique, d'auto-examen critique qui manque, selon moi. Donc, messieurs, mesdames, les journalistes, je vous aime, mais on va continuer à parler un peu des erreurs que vous avez commises ces prochains épisodes.
Top, bravo, bah, top.